Chapitre 6. Cette nuit-là, ne pouvant s'endormir, elle se retournait dans son lit et rejetait les couvertures. Elle sentait que le sommeil était loin encore, qu'il viendrait sur les premiers rayons, plein de poussière dansante, que le matin darde aux fentes des rideaux. La veilleuse, dont le petit cœur ardent luisait à travers sa chair de porcelaine, lui faisait une compagne mystique et familière. Félicie souleva les paupières et but d'un regard cette lueur blanche et laiteuse qui la tranquillisait. Puis, refermant les yeux, elle retomba dans l'ennui tumultueux de l'insomnie. Par instant, il lui venait à la mémoire une phrase de son rôle, à laquelle elle n'attachait aucune signification et qui l'obsédait. Nos jours sont ce que nous les faisons. Et son esprit se fatiguait à retourner sans cesse 4 ou 5 idées. Et il faudra demain que j'aille essayer ma robe chez Madame Royaumont. Hier, je suis entré avec Fagette dans la loge de Madame Ferrin, qui s'habillait et qui a montré ses jambes velues, comme si on en était fier. Elle est pas laide, Jeanne Perrin, elle a même une belle tête. Mais c'est son expression qui me déplaît. Mais comment Madame Colbert fait-elle pour me réclamer 32 francs? 14 et 3, 17, 17 et 9, 26, je lui dois que 26 francs. Nos jours sont ce que nous les faisons. Que j'ai chaud! D'un bond de ses reins souples, elle se retourna, et ses bras nus s'ouvrirent pour étreindre l'air comme un corps subtil et frais. Oh, il me semble qu'il y a un siècle que Robert est parti. C'est mal de sa part de m'avoir laissé seul. Je m'ennuie après lui. Et pelotonnée dans son lit, elle se rappelait studieusement comme c'était quand ils se tenaient pressés l'un contre l'autre. Elle l'appelait « mon chat, mon petit loup ». Aussitôt, les idées recommençaient dans sa tête, leur manège fatigant. « Nos jours sont ce que nous les faisons. Nos jours sont ce que nous les faisons. Nos jours. 14 et 3, 17, 17 et 9, 26. » J'ai bien vu que Jeanne Perrin faisait exprès de montrer ses longues jambes d'homme, toutes sombres de poils. Est-ce vrai ce qu'on dit que Jeanne Perrin donne de l'argent aux femmes? Il faudra que demain à 4 heures j'aille essayer ma robe. Il y a une chose terrible, c'est que Madame Royaumont ne sait jamais bien monter les manches. Ah, que j'ai chaud! Oui, Socrate est un bon médecin, mais des moments où il s'amuse à abrutir les personnes. Tout à coup, elle pensa à Chevalier, et elle sentit comme une influence de lui qui se coulait le long des murs de la chambre. Elle crut voir que la clarté de la veilleuse en était obscurcie. C'était moins qu'une ombre, et c'était inquiétant. L'idée la traversa tout à coup que cette chose subtile venait des portraits du mort. Elle n'en avait gardé aucun dans sa chambre. Mais l'appartement en contenait encore, qu'elle n'avait pas détruit. Elle en fit le compte avec soin et trouva qu'il devait en rester 3. Un premier, très jeune, sur un fond nuageux. Un autre, rieur et familier, à cheval sur une chaise. Un troisième, en Don César de Bazan. Dans sa hâte de les anéantir, elle sauta du lit, alluma une bougie, et traînant ses mules, glissa en chemise dans le salon jusqu'à la table de palissandre surmontée d'un palmier phénix, souleva le tapis, fouilla le tiroir. Il contenait des jetons, des bobèches, quelques morceaux de bois décollés, des meubles, 2 ou 3 pendeloques, du lustre et quelques photographies, parmi lesquelles elle ne trouva qu'un seul chevalier, le plus jeune sur un fond nuageux. Elle chercha les 2 autres dans un petit meuble façon de boule qui ornait l'intervalle des fenêtres et portait les lampes de Chine. Là dormaient des globes de verre dépolis, des abat-jour, des coupes de cristal garnies de bronze doré, un porte-allumette en porcelaine peinte, orné d'un enfant endormi près d'un chien, contre un tambour, des livres débrochés, des partitions en lambeaux, deux éventails brisés, une flûte et un petit tas de portraits-cartes. Elle y découvrit un deuxième chevalier, le Don César de Bazan. Le dernier n'y était pas. Elle se demanda inutilement où on avait bien pu le fourrer. En vain, elle fouilla les boîtes, les coupes, les cache-pots, le casier à musique. Et tandis qu'elle le recherchait ardemment, le portrait grandissait et se précisait dans son imagination, atteignait la taille humaine, prenait un air moqueur et la narguait. Elle avait la tête en feu, les pieds glacés, et sentait la peur lui entrer dans le creux de l'estomac. Au moment de renoncer et d'aller cacher sa tête dans l'oreiller, elle se rappela que sa mère gardait les photographies dans son armoire à glace. Elle reprit courage. Doucement, elle entra dans la chambre de Madame Nanteuil endormie, à pas muets gagna l'armoire, l'ouvrit avec lenteur, sans bruit, et montée sur une chaise, explora la plus haute tablette chargée de vieux cartons. Elle mit la main sur un album qui datait du Second Empire, et qu'on n'avait pas ouvert depuis 20 ans. Elle remua des tas de lettres, de liasses, de papiers timbrés et de reconnaissance du monde-piété. Réveillée par la lumière de la bougie et par le bruit de souris que faisait la chercheuse, Madame Nanteuil demanda « Qui est là ?» Aussitôt, voyant juchée sur une chaise, en longue chemise de nuit, une grosse natte dans le dos, le petit fantôme familier, « Mais c'est toi, Félicie, tu n'es pas malade? Qu'est-ce que tu fais là ?»«
Je cherche quelque chose. Dans mon armoire ?»«
Oui, maman. »«
Mais veux-tu bien aller te coucher? Tu vas t'enrhumer. »«
Dis-moi ce que tu cherches, au moins. »« Si c'est le chocolat, il est sur la planche du milieu, à côté du sucrier en argent. »
Mais Félicie avait saisi un paquet de photographies qu'elle feuilletait rapidement. Sous ses doigts impatients passait Madame Doulce, couverte de dentelles, Fagette éclatante et les cheveux dévorés de lumière, Tony Meyer, les yeux rapprochés l'un de l'autre et le nez tombant sur les lèvres, Pradel, à la barbe fleurie, Trublet, chauve et Camus, Monsieur Bondois, l'œil craintif et le nez roide sur une moustache épaisse. Bien qu'il n'eût point la tête à la s'occuper de Monsieur Bondois, elle lui donna au passage un regard hostile et d'aventure, lui fit tomber sur le nez une goutte de bougie. Madame Nanteuil, tout à fait réveillée, s'étonnait.
« Félicie, qu'est-ce que tu as fougonné comme ça dans mon armoire ?»
Félicie, qui tenait enfin le portrait tant cherché, ne répondit que par un cri de joie sauvage et s'envola de la chaise, emportant son mort et par mégarde, Monsieur Bondois avec. Rentrée dans le salon, elle s'accroupit devant la cheminée et fit un feu de papier dans lequel elle jeta les trois photographies de chevalier. Elle les regarda flamber et, quand les trois cartes, tordues et noircies, se furent envolées sous forme, sans forme ni matière, elle respira largement. Elle croyait bien, cette fois, avoir ôté aux morts jaloux la substance de ses apparitions et s'être délivrée de l'obsession. En reprenant son bougeoir, elle vit M. Bondois, dont le nez disparaissait sous un rond de cire blanche. Ne sachant qu'en faire, elle le jeta en riant dans la cheminée encore flambante. Rentrée dans sa chambre, elle se mit devant sa glace et serra sa chemise sur elle pour marquer ses formes. Une réflexion qui lui traversait parfois la tête s'y arrêta cette fois un peu plus longtemps qu'à l'ordinaire. Elle se disait à elle-même « Mais pourquoi est-on faite comme ça, avec une tête, des bras, des jambes, des mains, des pieds, une poitrine, un ventre? Pourquoi comme ça et pas autrement? C'est drôle. » Et en cet instant, la forme humaine lui apparaissait arbitraire, bizarre, étrange. Mais son étonnement cessa vite. Et se regardant, elle se plut. Elle avait d'elle un goût vif et profond. Elle découvrit ses seins, elle les tint délicatement sur le creux de ses mains, les contempla dans la glace avec tendresse, comme s'ils eussent été non pas d'elle mais à elle, comme deux êtres animés, comme une couple de colombes. Après leur avoir souri, elle se recoucha. Se réveillant à une heure tardive de la matinée, elle éprouva une seconde de surprise d'être couchée seule. Parfois en songe, elle se dédoublait, et sentant sa propre chair, rêvait qu'elle recevait les caresses d'une femme. La répétition générale de la grille était annoncée pour 2 heures. Dès 1 heure, le docteur Trublet avait pris sa place accoutumée dans la loge de Nanteuil. Félicie, aux mains de Madame Michon, reprochait à son docteur de ne rien lui dire. Mais c'est elle qui, préoccupée, l'esprit tendu sur le rôle qu'elle allait jouer, n'écoutait pas. Elle recommanda qu'on ne laissât entrer personne dans la loge. Pourtant, elle reçut avec plaisir Constantin Marc, se trouvant en sympathie avec lui. Il était très ému. Pour cacher son trouble, il affectait de parler de ses bois du Vivarais. Il commençait des histoires de chasse et des contes de paysans qu'il n'achevait pas. « J'ai le trac, » dit Nanteuil. « Et vous, monsieur Marc, est-ce que vous ne sentez pas des coups dans l'estomac ?» Il se défendit d'éprouver aucune émotion. Elle insista. « Avouez que vous voudriez bien que ce soit fini. »«
Eh bien, oui, puisque vous y tenez. » Peut-être, oui, que j'aimerais mieux que ce fût fini.
Sur quoi le docteur Socrate, d'un air simple et d'une voix tranquille, lui adressa cette parole interrogative.
Ne pensez-vous pas que ce qu'on doit s'accomplir, ce soit déjà accompli et d'être été tout le temps accompli?
Et sans attendre de réponse, il ajouta.
Si les phénomènes du monde parviennent successivement à notre connaissance, nous n'en devons pas conclure qu'ils sont en réalité successifs, et nous avons encore moins de raisons de croire qu'ils se produisent au moment même où nous les percevons.
Ben, c'est évident, dit Constantin Marc qui n'avait rien pas écouté.
L'univers, poursuivit le docteur, nous apparaît sans cesse imparfait, et nous avons l'illusion qu'il s'achève sans cesse. Comme nous percevons les phénomènes successivement, nous croyons qu'en effet, ils succèdent les uns aux autres. Nous nous imaginons que ce que nous ne voyons plus ont passé et que ce que nous ne voyons pas encore sont futurs, mais on peut concevoir des êtres construits de telle façon qu'ils découvrent simultanément ce qui pour nous est le passé et l'avenir. On peut concevoir qu'ils perçoivent les phénomènes dans un ordre rétrograde et les voient se dérouler de notre futur à notre passé. Des animaux disposant de l'espace autrement que nous et capables, par exemple, de se mouvoir avec une vitesse plus grande que celle de la lumière, se feraient de la succession des phénomènes une idée très différente de celle que nous en avons.
Oh, pourvu qu'aujourd'hui Durville ne me fasse pas de blague en scène, s'écria Félicie pendant que Madame Michon lui passait ses bras sous la jupe. Constantin Marc l'assura que Durville n'y songeait même pas, et il la supplia de ne pas s'inquiéter. Et le docteur Socrate reprit sa démonstration.
Nous-mêmes, par une nuit claire, le regard sur l'épi de la Vierge, qui palpite à la cime d'un peuplier, nous voyons à la fois ce qui fut et ce qui est. Et l'on peut dire également que nous voyons ce qui est et ce qui sera. Car si l'étoile telle que nous apparaît est le passé par rapport à l'arbre, l'arbre est l'avenir par rapport à l'étoile. Cependant, l'astre qui de loin nous montre son petit visage de feu, non tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était lors de notre jeunesse, peut-être même avant notre naissance, et le peuplier dont les jeunes feuilles tremblent dans l'air frais du soir, se rejoignent en nous dans un même moment du temps, et nous sommes présents l'un et l'autre à la fois. Nous disons d'une chose qu'elle est dans le présent, quand nous la percevons précisément. Nous disons qu'elle est dans le passé, lorsque nous n'en gardons qu'une image indistincte.
Une chose fut-elle accomplie depuis des millions d'années. Si nous en recevons une impression aussi forte que possible, ce ne sera pas pour nous une chose passée, elle nous sera présente. L'ordre dans lequel roulent les choses dans les abîmes de l'univers nous est inconnu. Nous ne connaissons que l'ordre de nos perceptions. Croire que l'avenir n'est pas parce que nous ne le connaissons pas, c'est croire qu'un livre est inachevé parce que nous n'avons pas fini de le lire. Ici, le docteur s'arrêta un moment, et Nanteuil, dans le silence, entendit battre son cœur. Elle s'écria : « Oh, continuez, mon bon Socrate, continuez, je vous en prie. Si vous saviez comme vous me faites du bien en causant. Vous pensez que je n'écoute pas un mot de ce que vous dites, mais de vous entendre dire des choses lointaines, ça me distrait. Ça me fait sentir qu'il n'y a pas que mon entrée. Ça m'empêche de m'enfoncer dans le trou noir. Dites n'importe quoi, mais ne vous arrêtez pas. » Le sage Socrate, qui sans doute avait prévu la bonne influence que sa parole exerçait sur la comédienne, poursuivit son discours. « L'univers se construit aussi fatalement qu'un triangle dont un des côtés et deux angles sont donnés. Les choses futures sont déterminées. Elles sont dès lors terminées. Elles sont comme si elles existaient. Elles existent déjà. Elles existent, si bien que nous les connaissons en partie. Et si cette partie est infime par rapport à leur immensité, elle est en proportion très appréciable avec la partie que nous pouvons connaître des choses accomplies. Il nous est permis de dire que, pour nous, l'avenir n'est pas beaucoup plus obscur que le passé. Nous savons que les générations succéderont aux générations dans le travail, la joie et la souffrance. J'étends mes regards par-delà la durée de la race humaine. Je vois les constellations changer lentement dans le ciel leur forme, qui semblait immuable. Je regarde le chariot dételer son antique attelage, le bouclier d'Orion se rompre, Sirius s'éteindre. Nous savons que le soleil se lèvera demain, et que longtemps encore, dans les nuées épaisses ou les vapeurs légères, il se lèvera tous les matins. » Adolphe Meunier entra discrètement sur la pointe des pieds. Le docteur lui serra la main. « Bonjour, monsieur Meunier. Nous voyons la nouvelle lune du mois prochain. Nous ne la voyons pas aussi distinctement que la nouvelle lune de cette nuit, parce que nous ne savons pas dans quel ciel gris ou roux elle montrera son derrière de vieille casserole sur mon toit, parmi les tuyaux coiffés de chapeaux pointus et de capotes romantiques au regard des chats amoureux. Mais ce lever de la lune prochaine, si nous étions assez savants pour le connaître d'avance dans ses moindres circonstances, toutes nécessaires, nous nous ferions une idée aussi nette de la nuit dont je parle que de celle où nous sommes. L'une et l'autre nous seraient également présentes. La connaissance que nous avons des faits est l'unique raison qui nous porte à croire à leur réalité. Nous connaissons certains faits à venir. Nous devons donc les tenir pour réels. Et s'ils sont réels, ils sont réalisés. Ainsi donc, il est croyable, mon cher Constantin Marc, que votre pièce est jouée depuis 1000 ans ou depuis une demi-heure, ce qui revient absolument au même. Il est croyable que nous sommes tous morts depuis longtemps. Pensez-le, et vous serez tranquille. » Constantin Marc, qui avait très mal suivi ses raisons et qui n'en sentait ni la propos ni la convenance, répondit un peu agacé que tout cela était dans Bossuet. « Dans Bossuet !» s'écria le docteur outré. « Ah, je vous défie bien d'y trouver rien de semblable. Bossuet n'avait aucune philosophie. » Nanteuil se tourna vers le docteur. Elle était coiffée d'un grand bonnet de linon à haute coiffe arrondie, serré sur la tête par un large ruban bleu, et dont les barbes, descendant en étage, lui ombrageaient le front et les joues. Elle s'était changée en une blonde ardente. Des cheveux roux lui tombaient en boucle sur les épaules. Sur son sein se croisait un fichu d'organdie pris dans une large ceinture violette. Sa jupe blanche, rayée de rose, coulant comme mouillée de la taille un peu haute, la faisait paraître très longue. et elle apparaissait en figure de rêve.
« De l'âge aussi, dit-elle, fait de sales blagues. Savez-vous celle qu'il a faite à Marie-Claire? Ils jouaient tous les deux dans les femmes savantes, et en scène il lui avait un œuf dans la main. Elle n'a pas pu s'en débarrasser de tout l'acte. »
À l'appel de l'avertisseur, elle descendit, suivie de Constantin Marc. Ils entendaient le bruit de la salle, la rumeur du monstre, et leur semblait qu'ils entraient dans la gueule ardente de la bête apocalyptique. La grille fut bien accueillie. Venue en fin de saison, sans espoir d'une longue durée, elle trouva grâce devant tous. Vers le milieu du premier acte, on y sentit du style, de la poésie, et ça et là, des obscurités. Dès lors, on la respecta, on affecta de s'y plaire, on voulut l'avoir comprise. On lui passa de n'être guère dramatique. Elle était littéraire, et cette fois, on admettait le genre. Constantin Marc ne connaissait encore personne à Paris. Il avait fait venir au théâtre trois ou quatre propriétaires du Vivarais qui rougeoyaient à l'orchestre dans leurs cravates blanches, roulaient des yeux ronds et n'osaient applaudir. Comme il n'avait pas d'amis, personne ne pensa à nuire à son succès. Et même dans les couloirs, on le faisait homme de talent comme d'autres. Très ému, cependant, il errait de loge en loge ou s'abattait au fond de l'avant-scène du directeur. Il s'inquiétait des critiques. « Soyez tranquille, lui dit Romilly. Ils diront de votre pièce le bien ou le mal qu'ils pensent de Pradel. Et dans ce moment-ci, ils en pensent plus de mal que de bien. » Adolphe Meunier l'avertit avec un pâle sourire que la salle était bonne et que les critiques trouvait l'écriture de la pièce très soignée. Il attendit en retour quelques paroles obligeantes sur Pandolfe et Clarimonde, mais Constantin Marc ne songea pas à les lui adresser. Romilly secoua la tête. Ben, il faut prévoir les éreintements. Monsieur Meunier le sait bien. La presse était envers lui d'une injustice féroce. Hélas, soupira Meunier, on dira jamais autant de mal de nous qu'on en a dit de Shakespeare et de Molière. Le succès de Nanteuil fut grand et marqué moins encore par de bruyants rappels que par l'approbation plus discrète et plus profonde des amateurs délicats. Elle avait montré des qualités qu'on ne lui connaissait pas encore, la pureté de la diction, la noblesse des attitudes, une grâce chaste et fière. Sur la scène, pendant le dernier entr'acte, le ministre lui adressa ses félicitations. C'était signe que la salle était favorable, car les ministres n'expriment jamais des opinions singulières. Derrière le grand maître de l'université se pressait une foule flatteuse de fonctionnaires, de gens du monde et d'auteurs dramatiques. Les bras allongés vers elle comme des pompes, ils lui exprimaient tous à la fois leur admiration. Et Madame Doulce, étouffée par leur nombre, abandonnait aux boutons des vêtements d'homme des lambeaux de ses innombrables dentelles de coton. Le dernier acte fut le triomphe de Nanteuil. Elle eut mieux du public que des pleurs et des cris. Elle obtint de tous les yeux, ses regards humides et pourtant sans larmes, de toutes les poitrines, ce murmure profond et presque muet que seul arrache la beauté. Elle sentit qu'elle avait démesurément grandi en ce moment. Et la toile tombée, elle murmura oh, « Cette fois, ça y est !» Elle se déshabillait dans sa loge pleine de corbeilles d'orchidées, de bouquets de roses et de gerbes de lilas, quand on lui apporta une dépêche. Elle l'ouvrit. C'était un télégramme de La Haye qui contenait ces mots « M'associe de cœur à succès certain, Robert. » Au moment où elle achevait de lire, le docteur Trublet entra dans la loge. Elle lui jeta au cou ses bras ardents de fatigue et de joie, l'attira contre sa poitrine moite et mit sur ce visage de Silène méditatif un plein baiser de sa bouche enivrée. Socrate, qui était un sage, reçut ce baiser comme un présent du sort, sachant bien qu'il n'était pas pour lui, mais qu'il était dédié à la gloire et à l'amour. Nanteuil s'aperçut elle-même que dans son ivresse, elle avait peut-être chargé ses lèvres d'un souffle trop ardent, car elle dit en jetant les bras dans le vague « Oh, tant pis, je suis si heureuse !» À Pâques, un événement considérable accrut sa joie. Elle fut engagée à la Comédie-Française. Depuis quelque temps, sans le dire, elle sollicitait pour cela. Sa mère l'avait aidée dans ses démarches. Madame Nanteuil était aimable depuis qu'elle était aimée. Maintenant, elle portait des corsets droits et avait des jupons qu'elle pouvait montrer partout. Elle fréquenta les bureaux du ministère et l'on croit que, sollicitée par un sous-chef aux Beaux-Arts, elle céda de très bonne grâce. Du moins, Pradel l'affirmait. Il s'écriait tout réjoui. « On ne la reconnaît plus, la maman Nanteuil. Elle est devenue très désirable et je l'aime mieux que sa petite rose de fille. Elle a meilleur caractère. » Comme les autres, Félicie Nanteuil avait dédaigné, méprisé, dénigré la Comédie Française. Elle avait dit comme les autres « Bon, je n'ai guère envie d'entrer dans cette maison-là. » Et quand elle fut de la maison, elle exulta de joie et d'orgueil. Ce qui doublait son plaisir, c'est qu'elle devait débuter dans l'école des femmes. Déjà, elle travaillait le rôle d'Agnès avec un vieux professeur obscur qu'elle estimait parce qu'il avait toutes les traditions, M. Maxime. Elle jouait le soir Cécile de la Grille et vivait dans une fièvre de travail quand elle reçut une lettre par laquelle Robert de Ligny lui annonçait qu'il revenait à Paris. Durant son séjour à La Haye, il avait fait quelques expériences qui lui avaient démontré la force de son amour pour Félicie. Il avait eu des femmes qui passaient pour agréables et jolies, mais ni Madame Bundernaut de Bruxelles, grande et fraîche, ni les sœurs Van Cruzen, modistes sur le viveur, ni Suzette Berger des Folies Marigny, alors en tournée par l'Europe septentrionale, ne lui avait donné dans le plaisir un sentiment de plénitude. Près d'elle, il avait regretté Félicie et découvert que de toutes les femmes, il ne désirait que celle-là. Sans Madame Bundernaut, les sœurs Van Cruzen et Suzanne Berger, il n'aurait jamais connu tout le prix qu'avait pour lui Félicie Nanteuil. Si l'on s'en tient au mot, on dira qu'il l'avait trompé. C'est le terme propre. Il y en a d'autres qui reviennent à celui-là et sont d'un moins bon usage. Mais si l'on regarde de plus près, il ne l'avait pas trompé. Il l'avait cherché. Il l'avait cherché hors d'elle et avait appris qu'il ne la trouverait qu'en elle. Dans son inutile sagesse, il en éprouvait presque de la colère et de l'effroi, inquiet de mettre désormais la multitude de ses désirs sur si peu de substance et dans un endroit unique et fragile. Et il aimait d'autant plus Félicie qu'il l'aimait avec quelque rage et quelque haine. Le jour même de son arrivée, il lui donna rendez-vous dans une garçonnière qu'un collègue riche du ministère des Affaires étrangères lui avait prêtée. C'était, sur l'avenue de l'Alma, au rez-de-chaussée d'une maison avenante, deux petites pièces tendues de soleil au cœur brun, aux pétales d'or, qui montaient, égaux, tranquilles et sans ombre, sur le mur réjoui. Modernes de style, les meubles d'un vert pâle, décorés de tiges fleuries, suivaient dans leurs contours les courbes molles des liliacées et prenaient la douceur des végétations humides. La psyché s'inclinait légèrement dans son cadre de plantes bulbeuses aux formes souples, terminée par des corolles closes, et dans ce cadre, la glace avait la fraîcheur de l'eau. Une peau d'ours blanc s'allongeait au pied du lit.
« Toi, toi, oh c'est toi !»
Elle ne pouvait dire autre chose. Elle lui voyait des prunelles luisantes et lourdes de désir, et tandis qu'elle le regardait, un nuage s'épaississait sur ses yeux, le feu subtil de son sang, la brûlure de ses reins, le souffle chaud de sa poitrine, l'ardeur fumeuse de son front, lui vinrent ensemble à la bouche, et elle appuya longuement sur les lèvres de son amant un baiser rempli de toutes ses flammes et frais comme une fleur dans la rosée. Ils se demandaient l'un à l'autre 20 choses à la fois et entremêlaient leurs questions. « Est-ce que tu t'ennuyais loin de moi, Robert ? Alors, tu l'as vu dans la comédie ? Est-ce que c'est joli, la haie ? Oui, une petite ville paisible, des maisons rouges, grises, jaunes, avec des pignons en escalier, des volets verts, des géraniums aux fenêtres. Et qu'est-ce que tu faisais là-dedans ? Oh, pas grand-chose, je faisais le tour du vivaire. Tu n'allais pas avec des femmes, au moins ? Oh, ma foi, non ! Oh, comme tu es jolie, ma chérie, mais tu es guérie maintenant ? Oui, oui, je suis guérie. » Et tout à coup, suppliante, « Robert, je t'aime, ne me quitte pas. Si tu me quittais, bien sûr que je m'en prendrais pas un autre, et qu'est-ce que je deviendrais ? Tu sais que je ne peux pas me passer d'amour. » Il lui répondit brusquement d'un ton rude, qui ne l'aimait que trop, qui ne pensait qu'à elle. « J'en deviens stupide. » Cette rudesse la ravit et la rassura mieux que n'eût fait la molle douceur des serments et des promesses. Elle sourit et commença à se déshabiller généreusement. « Quand débutes-tu à la comédie ?»« Ce mois-ci. » Elle ouvrit son petit sac et en tira avec sa poudre de riz son bulletin de répétition qu'elle tendit à Robert. Ce qu'elle ne se lassait pas d'admirer dans ce papier, c'était qu'il portait l'en-tête de la comédie avec la date lointaine auguste de la fondation. « Tu vois, je débute dans Agnès de l'école des femmes. »« Oh, c'est un joli rôle. Je te crois. » Et en se déshabillant, des vers lui venaient aux lèvres et elle les murmurait. « Moi, j'ai blessé quelqu'un, » fis-je tout étonné. « Oui, » dit-elle, « blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vide du balcon. Là, ce qui pourrais-je lui dire avant été cause ? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose ? Tu vois, j'ai pas maigri. « Non, » dit-elle, « vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. » « Bon, j'ai plutôt engraissé, mais pas trop. »« Et mon Dieu, ma surprise est, fis-je sans seconde, mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde ?» Il écoutait ses vers avec plaisir. S'il n'avait pas beaucoup plus de lettres antiques ni de traditions françaises que ses jeunes contemporains, il avait plus de goût et des curiosités plus vives. Et comme tous les Français, il aimait Molière, le comprenait, le sentait profondément. « C'est délicieux, » dit-il, « mais maintenant viens. » Elle laissa couler sa chemise avec une grâce tranquille et bienfaisante. Mais parce qu'elle voulait se faire désirer, et pour l'amour de la comédie, elle commença le récit d'Agnès. « J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, il l'appela, l'attira à lui, elle lui glissa des bras et, s'approchant de la psyché, elle continua de réciter et de jouer devant la glace. D'une humble révérence, aussitôt me salue. Elle fléchit le genou, une première fois légèrement, ensuite un peu plus bas, puis la jambe gauche en avant, et rejetant la jambe droite en arrière, elle salua profondément. Mais pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Il appela plus pressant, mais elle fit une seconde révérence, dont elle marqua les temps avec une amusante précision. Et elle ne s'arrêta plus de réciter ni de faire des révérences aux endroits où le texte et la tradition les indiquent. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même, une autre en diligence. Et lui, d'un troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, je repars à l'instant. Elle exécutait tous les jeux de scène sérieusement, avec conscience et le soin de bien faire. Ses attitudes, dont quelques-unes déconcertaient parce qu'il lui fallut une jupe pour les expliquer, étaient presque toutes jolies et toutes intéressantes, en ce qu'elles accusaient, et dans un corps jeune, des muscles fermes sous leur molle enveloppe, et révélaient à chaque mouvement des correspondances et des harmonies qu'on n'observe pas d'ordinaire. En revêtant sa nudité de la bienséance des attitudes et de l'ingénuité des expressions, elle réalisait par fortune et caprice un joyau d'art, une allégorie de l'innocence dans le goût d'Allegrin ou de Clodion. Et dans cette figurine animée résonnait avec une pureté délicieuse le grand vers comique. Robert, charmé malgré lui, la laissa aller jusqu'au bout. Ce qui l'amusait surtout, c'était que la chose la plus publique de toutes, une scène de théâtre, lui fut offerte aussi d'une façon privée et secrète. Et en observant les façons cérémonieuses de cette fille toute nue, il se donnait aussi le plaisir philosophique de découvrir avec quoi l'on fait de la dignité dans les meilleures compagnies. Il passe, vient, repasse, est toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ses tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Cependant, elle admirait dans la glace ses seins fraîchement éclos, sa taille agile, ses bras un peu minces, ronds et fuselés, ses jambes fines, ses beaux genoux polis, et voyant tout cela servir au bel art de la comédie, elle s'animait, s'exaltait, une légère rougeur comme un phare colorait ses joues. Tant que si sur ce point la nuit me fut venue, toujours comme cela je me serais tenu, ne voulant point céder ni recevoir l'ennui qu'il me put estimer moins civil que lui. Il lui cria du lit où il était accoudé, « Allez maintenant, viens !» Alors, tout animé et empourpré, « Et moi, tu crois donc que je t'aime pas ?» Elle se jeta aux côtés de son amie. Abandonnée et souple, elle renversa la tête, offrant au baiser ses yeux voilés de cils ombreux et sa bouche entr'ouverte où luisait un humide éclair. Tout à coup, elle se dressa sur ses genoux. Ses prunelles fixes étaient pleines d'une horreur indicible. De sa gorge sortit un cri rauque, suivi d'une plainte douce et longue comme un son d'orgue. Elle montra du doigt, en détournant la tête, la fourrure blanche étendue au pied du lit. « Là, là ! Il est couché en chien de fusil, la tête trouée. Il me regarde en riant avec du sang au coin de la bouche. » Ses yeux, grands ouverts, roulèrent tout blancs. Son corps se tendit en arc, et quand il eut repris sa souplesse, elle tomba comme morte. Il lui mouilla les tempes d'eau froide et la ranima. D'une voix enfantine, elle se plaignit d'être brisée à toutes les jointures. Sentant une brûlure au creux de ses mains, elle regarda et vit que la paume était coupée et saignait. Elle dit, « Oh, c'est mes ongles qui sont entrés dans ma main. Ils sont pleins de sang, mes ongles, vois !» Et elle le remercia tendrement des soins qu'il lui avait donnés et s'excusa avec douceur de lui causer tous ses ennuis. « C'était pas pour ça que tu étais venu, hein ?» Elle essaya de sourire et regarda autour d'elle. « C'est joli, si. » Son regard rencontra le bulletin de répétition ouvert sur la table de nuit. Et elle soupira. « Mais qu'est-ce que ça fait que je sois une grande artiste ?» « Si je ne suis pas heureuse !» Sans le savoir, elle répétait mot pour mot ce que Chevalier avait dit quand elle l'avait repoussé. Puis, soulevant sa tête encore lourde au-dessus de l'oreiller qu'elle avait creusé, elle tourna vers son amant ses yeux tristes et lui dit avec résignation « Nous nous aimions bien tous deux. C'est fini. » Nous ne serons plus jamais l'un à l'autre, plus jamais. Il ne veut pas. Fin.